eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas trop rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
C'est ce cinquième numéro à l'heure de l'émission pour le compte de cette semaine et de ce mois de juin. Club de la presse, c'est avec Michel Tomega, bien évidemment, à la mise en onde, Jérôme Dakoucha à la mise en ligne. Je suis au micro, votre fidèle Pascal Lossou. Club de la presse, vous pouvez également nous écouter partout au Togo à travers des radios partenaires. Ce sont bien évidemment nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. L'émission Club de la presse, c'est aussi avec nos radios partenaires en ligne, Radio Les Bénins et Hymne Radio. Des confrères journalistes sont en studio et déjà avec moi alors pour animer cette émission alors du Club de la presse de ce vendredi. Francis Napokoura, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour aux très chaleureux auditeurs et auditrices de... La nouvelle génération.
Voilà. Alors, j'espère que Tampa Express se porte très bien.
Ah oui, Tampa Express va bien. Mmh. Nous avons repris depuis, respecté les deux parutions du mois de mai. Mmh. Donc, la dernière, c'est le numéro 35 qui est sorti le 30 passé, c'est-à-dire que le mardi dernier, qui est encore dans les kiosques. Mmh. Très riche en couleurs. Et où nous avons interrogé un peu la profession du journalisme au Togo à travers un édito que nous invitons, les lecteurs à aller lire. Mmh. Et aussi, vous allez les découvrir sur le site www.tampaexpress.net.
Mmh. Alors, nous vous souhaitons bon retour, parce que nous savons que vous êtes revenu alors d'une extension de la HAC.
Oui, bon, et puis bon, pas seulement, il y a quelques fois, nous sommes absents les mercredis, les vendredis. Aux émissions de Canal FM, c'est compte tenu de certains emplois du temps chargés, si nous ne sommes pas là, c'est pas parce que on nous a retiré la parole.
Justement.
Nous avons notre parole jusqu'au dernier souffle.
Merci beaucoup pour cet engagement. Alors, nous avons notre invité de ce matin, c'est Hortense Nayo. Hortense Nayo, qui est une habituée, même d'ailleurs, de ce studio. Hortense, bonjour.
Bonjour Pascal,
comment tu vas?
Je vais super bien. Et j'espère que c'est la grande forme chez vous.
Justement, c'est la grande forme. Alors, vous êtes chez nous ce matin pour nous parler d'un événement.
Oui.
Un événement que vous organisez, c'est le buffet Fête des Mères.
Justement.
Qu'est-ce que c'est?
Buffet Fête des Mères, c'est un événement spécial pour honorer toutes les mamans, les mères, vous savez. Je le dis toujours, celui qui respecte la nature, celui qui respecte Dieu doit honorer la femme, doit respecter la femme. Donc les femmes sont nos mamans, nos épouses, parce que vous êtes des hommes, Adino. Donc à Miado Dijuenanyonmu, vous savez, tout récemment c'était la fête des mères, donc on a pensé aux mamans. Et Nayo Nlume Orchestra sera sur scène, comme vous le savez, rien que du live. Et quand on parle de Nayo Nlume Orchestra, il faut s'attendre à écouter que de la pure sonorité togolaise, que ce soit du côté de nos rythmes ou bien de nos harmonies. Et il y aura des surprises, parce que nous allons fusionner avec des styles comme du blues, de la soul et du funk.
Alors, c'est vrai que vous avez présenté tout petit peu le tableau. Ouais. Est-ce que vous serez seul alors sur scène ou bien il y a d'autres artistes également qui seront avec vous?
On sera sur scène juste Hortense Nayo, Lomé Orchestra.
Mmh.
Oui.
C'est quoi la particularité alors de cet événement? Est-ce que c'est vrai, c'est pour honorer nos mères, honorer les femmes?
Oui.
Mais est-ce que vous avez une particularité de l'événement?
Bon, la particularité de l'événement, c'est ça. C'est une fête, en fait.
Mm.
Une fête où il y aura... c'est un buffet.
Voilà.
Manger à boire et à vivre de la bonne musique.
Et les mères seront là?
Oui, les mères seront là, et pas que les femmes, les dames, mais tout le monde est attendu. Les maris doivent venir avec leurs épouses, leurs mamans, leurs sœurs. Nos frères et sœurs doivent venir avec leurs mamans, parce que c'est une occasion, il faut vraiment profiter pour honorer sa maman. Ke emia no la gbe ame ke ve no la gbe a mon popo beni be bado bubu inti bado di juene, parce que ça fait plaisir vraiment à nos mamans.
Ça fait plaisir justement d'honorer nos mamans. Est-ce qu'il y a des conditions pour prendre part à cette rencontre, et également la rencontre va se tenir où?
Déjà, ça va se tenir dans la salle Fazao de l'hôtel de février de Lomé, et ça va commencer à 12h30. Je rappelle que c'est le dimanche prochain, le 4 juin.
Voilà.
Et l'entrée est à 28 500. Avec une réduction de 10% pour toutes les mamans. Et un package de 40 000 francs. Avec du vin.
Voilà. Francisco, nous devons aller quand même pour honorer nos mères.
Il le faut, hein. Et surtout vos épouses.
Oui, on les honore tous les jours. Nos mamans, sans la femme, l'homme n'aurait pas de vie et même d'existence.
Tout à fait.
D'accord, voilà. Oublions de ce côté aujourd'hui, avec la dépravation des mœurs, et qu'on dise que la femme peut épouser la femme ou l'homme peut épouser l'homme. Ça, c'est des pratiques qui malsaines, qu'il ne faut pas suivre. La vie en couple, c'est homme et femme.
Mm-hmm.
Et c'est homme et femme qui font des enfants et qui éduquent les enfants. Donc, bravo à Mademoiselle Nayo et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Nous sommes derrière vous.
Et j'espère vous voir, parce que vous êtes déjà invité.
Oui, merci.
Nous sommes tous invités à cette rencontre, à ce buffet. Buffet alors qui va se tenir à l'hôtel de février, et précisément dans la salle Fazao, bien évidemment. Et c'est le dimanche prochain. À partir de quelle heure?
12h30. Mais je pense qu'il faudra venir un peu plus tôt, parce que c'est un déjeuner, donc on ne va pas laisser les nourritures se refroidir quand même.
Les retards.
Non, mais quand il s'agit de manger, je pense quand même qu'on reste souvent à l'heure.
Nous, on est toujours à l'heure, voilà. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, quand on va dire 12h30, peut-être ça va commencer à 14h, 15h. Non, nous, on est toujours à l'heure. On respecte vraiment le temps.
Respecter le temps. Vous allez encore respecter le temps le dimanche prochain.
Justement.
Merci beaucoup, Hortense Nayo, et vous restez avec nous. Et peut-être déjà au moment où nous allons donner la voix ou la parole à nos auditeurs, il y aura certains, sûrement, qui vont vous poser des questions. Vous restez toujours avec nous, et nous allons continuer plutôt avec des sujets de l'actualité ici au Club de la Presse. Retour dans cette émission, Club de la Presse. Francis Nakoura, rebonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Voilà, alors notre premier sujet alors dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler agriculture. Agriculture, vous le savez très bien que l'agriculture dans les pays de la CEDEAO a fait l'objet alors d'une table ronde cette semaine à Lomé. Et la rencontre de Lomé s'est plus penchée alors sur la question de l'engrais et la santé des sols. Et lors de cette réunion, les pays ont pris alors des engagements, des pays surtout de la CEDEAO ont pris des engagements pour l'évolution de l'agriculture dans la sous-région. Et l'événement est organisé depuis mardi à l'initiative alors du gouvernement togolais, de la Banque mondiale et de la CEDEAO et regroupe alors des dirigeants venus alors de l'ensemble des États membres de la CEDEAO ainsi que des représentants d'organisations régionales, continentales et internationales et des partenaires au développement. Alors, il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet ce matin. Si nous prenons d'abord le Pour la Patrie, l'Union. Alors, l'Union pour la Patrie titre à sa une ce matin nécessaire souveraineté alimentaire, la vision de Faure Gnassingbé et Ousmane Diagana. Ousmane Diagana, il est le vice-président de la Banque mondiale pour le compte de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, le Canard indépendant titre à sa une ce matin, agriculture, objectifs et mesures de la déclaration de Lomé sur les engrais. Et l'éveil de la nation qui est dans les kiosques ce matin, titre à sa une, la santé des sols, parlant plutôt alors de cette rencontre, Afrique de l'Ouest, la santé des sols passe par Lomé. Et je parlais entre-temps alors des engagements que des États ont pris. Il y a aussi une proposition également que le président de la République, ou des propositions que le président de la République a eu à faire au cours de cette rencontre. Je vais nous proposer alors cet élément du président de la République à suivre d'abord et nous revenons en studio pour le débat.
Face à ce besoin de trouver un juste équilibre, la planification et l'implication de l'État s'imposent. La stratégie doit aller au-delà des échéances électorales. La réglementation doit compenser les différences du marché et la subvention doit limiter les risques liés à l'accès aux intrants pour que l'utilisation des engrais puisse répondre à l'urgence d'une intensification de la production alimentaire. Il nous faut trouver un juste équilibre et une bonne stratégie, mais surtout, il nous faut être organisé, il nous faut être coordonné. Comme l'illustre la feuille de route présentée ce jour, notre vision doit être sous-régionale avant tout. D'abord, la production. L'Afrique est aujourd'hui dépendante de l'étranger pour son approvisionnement en engrais azoté. Ensuite, la recherche. Si produire doit être notre but, les engrais ne se résument pas à une formule simple. Chaque sol, chaque climat, chaque pays et chaque localité possèdent des spécificités et appellent des engrais sur mesure. Enfin, l'approvisionnement et la commercialisation. Une fois produits, ces engrais adaptés devront être transportés et diffusés à travers la sous-région. La pleine utilisation des infrastructures existantes et en particulier nos hubs logistiques sera donc essentiel. Baisser les coûts de transaction sera le socle de cette troisième promesse.
Et voilà, et c'est le président de la République, Faure Gnassingbé, que vous venez là d'écouter. Et alors, Francisco, c'est vrai que le chef de l'État, dans cet extrait d'éléments sonores que nous venons d'écouter, a fait des propositions et il disait très bien qu'il nous faut trouver alors le juste équilibre et il nous faut être organisé. Il faudrait quand même qu'aujourd'hui, l'agriculture soit organisée pour son développement.
Oui, Pascal, tout d'abord, je voudrais un peu déplorer la manière dont les choses se passent autour des sommets au Togo, les événements du gouvernement, même quand nous prenons aujourd'hui le recensement en cours, les médias n'ont pas été associés. Et quand je prends par exemple ce forum, c'est à la télé. Sinon, nous, en tant que, communicants, journalistes, ce n'est pas à la télé, nous allons trouver les éléments, c'est pas sous la télé que nous allons écrire nos billets, nos articles. D'accord? Donc, ça veut dire que la presse togolaise, en quelque sorte, je sais pas si d'autres ont été invités, ne sont pas associés. On voit plutôt des chaînes étrangères qui viennent pour faire le travail à notre place. D'accord? Maintenant, pour la question des intrants, en fait, nous organiser, l'Afrique a toutes les structures d'organisation. Nous avons la CEDEAO, nous avons l'UMOA, nous avons l'Union africaine et autres conseils de l'entente. Et depuis, qu'est-ce que nous attendons véritablement pour nous organiser? D'accord? Donc, il y a des choses à faire ensemble et qu'on peut faire ensemble. Mais on est là seulement, je prends dans les discours, quand je prends le cas de l'engrais, il a fallu la guerre en Ukraine pour qu'on sache que véritablement l'engrais nous vient en grande partie de l'Ukraine et que maintenant il faut s'armer. On est d'abord le coronavirus déjà a déjà créé ce problème. Mmh. Et depuis 2020, on n'a pas pu s'organiser. Nous sommes en 2023. Et c'est aujourd'hui qu'on organise un sommet pour qu'on s'entende autour. Mais il faut savoir que chaque pays a sa spécificité. Comme l'a dit le discours du chef de l'État, au Togo, nous avons fait des études pour voir les engrais adaptés à chaque type de sol. Mmh. D'accord ? Le Togo a réalisé des études. Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous importons encore de l'engrais qui n'est pas adapté aux différents sols du Togo. Je prends le cas du Togo spécifiquement. Donc, après ces études-là qui sont disponibles, on reçoit encore des engrais qui ne sont pas adaptés. L'année dernière, on avait reçu un engrais de type roux que les gens ont décrié. Cette année, Dieu merci, c'est l'engrais de type de couleur blanche. Mais quand nous remarquons sur le terrain, d'accord, dans certaines régions comme la région de la Kara, on exige à ce que l'ancien stock sorte avant que le nouveau stock, d'accord, c'est le stock blanc, oui, ne commence par sortir. Alors que c'est l'État qui a importé l'engrais. Si on voit que l'engrais n'est pas bon pour nos sols, si l'entente dont parle le chef de l'État, on peut voir si le Niger, les gens du Niger sont venus, les gens du Mali sont venus, on peut voir si leur sol est adapté, on leur envoie l'engrais que nous avons en stock qui n'est pas adapté à notre sol. Voilà pour cette petite coopération-là. On n'arrive pas encore à se mettre ensemble. Mais nous parlons de, nous sommes dans une sous-région où on décide la circulation des personnes et des biens. On ne peut pas facilement traverser la frontière du Ghana, ni du Bénin, ni de Côte d'Ivoire et choses sans payer de l'argent. Ça, c'est les hommes, ça. D'accord ? Les hommes même n'arrivent pas à passer. Et les biens, c'est difficile. Dans ces conditions, comment est-ce que cette entente-là, nous pouvons le réussir si on décide, par exemple, de fabriquer l'engrais au Togo ? D'accord ? Est-ce que cet engrais aura le visa pour circuler, pour franchir les frontières sans problème? Donc, nous avons de sérieux problèmes. Les organisations que nous avions déjà, il faut les revoir. Qu'est-ce qui ne marche pas et les restructurer, d'accord? Et avant de continuer à créer de nouveaux concepts, parce que quand on parle de l'engrais et la santé des sols, tout ce qu'on nous parle ici, mais on nous parle encore de l'engrais chimique qui va détruire le sol. Je ne sais pas si vous voyez. On parle encore de l'engrais chimique qui va détruire le sol. Les gens ne pensent pas au compostage, à l'agroécologie. Et derrière, quand vous voyez, vous avez parlé de la Banque mondiale. Depuis quand la Banque mondiale et le FMI ont développé un pays? Depuis quand? Ils sont avec nos pays pendant des années. Mais depuis quand ils ont pu aider, sinon aider un pays africain à décoller? Donc, il faut qu'on pense vraiment à nos pays, à voir si les chemins que nous allons tracer, Kakono Boupo, l'urgence africaine, dedans, oui, il faut lire ce matin, j'ai encore lu quelques pages. Mais au niveau de l'agriculture, Kakono Boupo, c'est un agronome, agroéconomiste.
Économiste, oui.
D'accord. Mais quand vous prenez l'urgence, vous lisez, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on devait se passer et véritablement fait face à choses. Sauf que nos sommets, c'est souvent des business, ça engloutit. Parce que si on va vous dire combien ce sommet a coûté pour le Togo, on n'a pas encore l'épisode, c'est les, mais quand vous voyez déjà la décoration, les invités, l'organisation, vous sentez que c'est des milliards qui sont partis. Ces milliards pouvaient servir à évacuer les eaux, même à assister les paysans, les producteurs, à produire de l'engrais organique, quand je dis du compostage naturel, qui donne de la nourriture, de la valeur au sol, et non à espérer encore à installer des usines. Bien sûr, ces usines vont créer de l'emploi. Ok, c'est une bonne chose. Mais est-ce que l'engrais que nous allons produire va véritablement donner la nourriture au sol? Puisque ce que nous importons donne une dépendance. Quand vous utilisez par hectare 10 sacs cette année, l'année suivante, il faut doubler. D'accord ? Et donc, l'agriculture de plus en plus devient l'agriculture des riches. Si vous n'avez pas de l'argent au Togo, vous ne pouvez pas cultiver. À commencer déjà par le labour, par le défrichage des sols. Si vous n'avez pas de l'argent pour louer un porte-char qui va soulever un bulldozer, hein, d'un endroit à l'autre, parce que quand vous prenez un porte-char, la location d'un porte-char, c'est au kilométrage. Quand vous prenez le bulldozer qui va arriver pour travailler, c'est encore des frais, des frais fixes par jour. D'accord? Et aller chercher les tracteurs du gouvernement. Il y a beaucoup qui viennent, qui ne font même pas deux hectares de labour, on les gare. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en train de perdre, de tourner en rond. Nous avons le facteur eau que nous ne maîtrisons pas du tout. Le facteur eau. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. D'accord? Bientôt, la pluie va cesser. Donc, entre deux saisons, qu'est-ce que nous faisons? Voilà les réels problèmes auxquels nous devons faire face. Hein, au lieu de sauter de croc à l'an, on a fait ci, on a fait... C'est beau les sommets, c'est beau les discours, mais le terrain nous dit que tout ce qu'il est en train de faire depuis des années, d'accord, qu'on parle de structuration, hein, de nos, tout ce qu'on aborde, pratiquement rien ne décolle.
Alors, merci beaucoup, Francisco, pour cette intervention. Alors, nous sommes rejoints entre-temps par Olivier Adja et aussi Germain Pouli. Olivier, bonjour.
Bonjour, mon cher ami. Bonjour aux éditeurs.
Olivier, nous sommes en train de parler de l'agriculture. Justement, nous savons qu'il y a une table ronde qui a eu lieu alors cette semaine dans notre capitale. Et c'est organisé par la CEDEAO et le gouvernement togolais, bien évidemment. Alors, pour vous, et nous avons écouté même un élément du chef de l'État maintenant. Et dans cet élément, il est ressorti que non, il est très important aujourd'hui qu'il faut aller vers l'accès aux intrants. Il faut la recherche, il faut également l'approvisionnement, il faut la commercialisation. Et c'est des propositions également faites par le président de la République. C'est des propositions. Ça veut dire que si on mettait vraiment ces propositions en œuvre, quelque chose peut changer dans l'agriculture de la sous-région.
Oui, bien sûr, il faut saluer l'initiative prise par le Togo et qui a réuni plusieurs États d'Afrique de l'Ouest ici. Au moins 3 ou 4 chefs d'État qui sont arrivés pour discuter de l'accès aux intrants agricoles, en l'occurrence l'engrais, à des coûts abordables pour la population. Vous savez, la question de l'engrais est une question préoccupante pour la sous-région, mais aussi pour le Togo. Pas plus tard que l'année dernière, si je me trompe, nous avions connu des difficultés d'approvisionnement en engrais, et si bien que les agriculteurs, les paysans étaient très mécontents et ont attendu des mois pour avoir accès à cet engrais et l'utiliser dans leur champ. Le chef de l'État a pris l'initiative et il faut toujours un leader ou quelqu'un qui donne le ton à ce genre de choses. Et nous estimons ou nous espérons que à Lomé, ce qui s'est passé puisse être suivi d'effets concrets. Et le chef de l'État a parlé surtout de la reconquête par l'Afrique de son autosuffisance alimentaire. Et ça passe aussi par une agriculture moderne. Et on annonce déjà l'implantation d'une usine de fabrication d'engrais au Togo, et aussi des stratégies de mécanisation de notre agriculture. Ça passe par là. Vous savez que dans toute crise, il y a toujours des opportunités. Et la crise ukrainienne devrait plutôt être une opportunité que un problème pour nous. Les Africains étaient surpris et désagréablement surpris de voir que des chefs d'État africains, au début de cette crise, ont plutôt fait des démarches vers la Russie et vers l'Ukraine pour demander à ce qu'on nous octroie du blé. D'accord, en Afrique, parce que soi-disant que nous, les Africains vont mourir de faim si on n'a pas de blé. Et le blé a été débloqué, mais les navires qui ont quitté l'Ukraine depuis là jusqu'ici, combien sont arrivés sur le continent africain? Et c'est une problématique. Profitons plutôt de cette occasion pour faire développer notre agriculture et pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Et c'est la vision du Togo. Et voilà ce qui est fait aujourd'hui. Maintenant, la question de l'engrais, je crois que c'est un couteau à double tranchant. L'engrais nous aide à développer notre agriculture, à avoir donc des productions en grande quantité et peut-être de qualité. Mais à la longue, l'engrais tue nos terres, nos sols. On a aussi parlé à l'OMS de l'enrichissement des sols. Oui, mais est-ce qu'il faut utiliser au même moment l'engrais qui détruit les sols et en même temps parler d'enrichissement? Et est-ce qu'il ne faut pas chercher des intrants alternatifs comme des intrants biologiques, des intrants donc que nous, les gens, dont les gens maîtrisent la fabrication? Nous avons beaucoup donc de déchets ménagers aujourd'hui et de déchets de tous ordres qu'on peut utiliser pour essayer donc d'enrichir nos sols. D'accord? Donc les engrais, combien de milliards ça nous coûte quand on les commande? Selon les informations, au moins par an, nous utilisons jusqu'à 17 milliards de francs CFA au Togo pour commander nos engrais. D'accord? Donc, si on prend une partie de ce montant pour développer d'autres moyens d'enrichissement de nos sols, je crois que ce serait bien. Sinon, à la longue, la crainte, c'est que voilà, nos sols soient totalement appauvris et que peut-être on ne trouve plus d'autres solutions pour les enrichir.
Germain, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Grâce à Dieu, ça va.
Alors, nous sommes en train de parler de l'agriculture. L'agriculture et surtout avec cette rencontre qui s'est tenue cette semaine à Lomé. Finalement, le Togo, déjà après les FOPAT, après avoir fait ce travail hein, ou les travaux alors de FOPAT, on veut maintenant s'ouvrir plus vers la CEDEAO, la sous-région, et arriver à proposer quelque chose de concret.
Oui, vous savez que la crise, elle est générale. Et il y a pratiquement, au moins, si mon mémoire est bonne, 30 millions d'individus qui ont des problèmes pour s'alimenter en Afrique de l'Ouest, uniquement. Donc, c'est un problème très sérieux. Donc,
on parle plus même d'ailleurs, plus précisément, voilà, de 41 millions.
Au-delà de la CEDEAO, c'est aussi le Sahel qui est concerné. Donc, il était important que l'Afrique trouve une solution. Aujourd'hui, le principal problème, c'est l'approvisionnement donc en engrais. On sait, comme l'a dit Olivier, depuis qu'il y a cette guerre-là, nombreux étaient les Africains qui ne savaient pas du tout d'où venait l'engrais. On ne savait pas que l'engrais venait de la Russie. On ne savait pas que le blé qu'on consommait, le pain, venait de l'Ukraine et même de la Russie. Donc, et on arrive à cette réalité-là où cette guerre-là, on ne sait pas jusqu'à quand va finir. Il y a des accords qui sont signés par des pays comme la Turquie qui permettent encore aujourd'hui de nous fournir des céréales et peut-être de nous faire encore parvenir l'engrais, mais il suffit que tout ça soit bloqué et que nos productions agricoles qui n'étaient pas assez suffisantes pour nous nourrir vont totalement disparaître. Donc il faut que l'Afrique réfléchisse et c'est ce qui a été fait. Et ici à Lomé, il faut saluer cette initiative. Il y a quelques mois, il y a eu aussi une grande réunion de la CEDEAO du Sahel aussi sur la sécurité alimentaire. Donc les mêmes craintes étaient là. Et à cette occasion, je crois que la chef du gouvernement avait annoncé que le Togo s'apprêtait donc à transformer son phosphate pour pouvoir fournir donc de l'engrais aux autres pays. Et vous savez que notre pays est l'un des plus gros producteurs de phosphate donc en Afrique. Et il y a eu cet accord-là qui a été signé avec l'Office chirifien des phosphates, donc un groupe marocain qui est aussi dans le phosphate, qui est le premier, et donc qui va travailler avec le Togo pour transformer sur place ce phosphate-là et en faire des engrais. Donc c'est déjà une avancée, un début de solution. Et donc ce genre de réunions sont importantes parce que le problème est général. Ce n'est pas un problème du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là ne produisent pas ce qu'ils consomment ou consomment ce qu'ils ne produisent pas et ne produisent même pas en quantité suffisante, j'allais dire, d'où la nécessité de passer à une mécanisation et à une modernisation générale donc de notre agriculture. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a quand même des bailleurs de fonds comme le groupe de la Banque mondiale, certains pays européens et autres donc qui ont accepté et accompagner ce qui a été défini comme feuille de route ici. La Banque mondiale a déjà annoncé porter son enveloppe à 5,5 milliards donc, de dollars, de francs CFA et de dollars, ce qui va quand même aider. Donc je ne crois pas que qu'il s'agit d'une réunion de plus, mais il s'agit de rechercher des solutions concertées, parce que ce n'est pas un problème d'un seul pays. Un seul pays aura du mal aussi à le régler, et donc il faut songer à des solutions sous-régionales, pourquoi pas africaines, mais c'est déjà pas mal qu'au niveau de la CEDEAO, on s'ouvre un peu au Sahel pour essayer donc de trouver une solution à cette crise-là. Et comme l'a dit encore Olivier, et aujourd'hui on se plaint de la guerre en Ukraine, mais si tout ce qui a été décidé à Lomé arrive à se faire, demain on va plutôt remercier cette guerre-là, parce que elle nous a permis de prendre nos responsabilités et d'évoluer vers la souveraineté alimentaire.
Merci beaucoup, Germain. Francisco, est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas les moyens nécessaires pour aller vers la mécanisation alors de l'agriculture?
L'affaire de mécanisation, c'est énorme, hein? C'est énorme. Et je vous ai dit, parce que pour aller à la mécanisation, il y a les préalables. Les machines que nous importons, il faut qu'on soit à même de faire la maintenance et de fabriquer les pièces de rechange. C'est encore un autre sujet, parce que là, il faut toujours être dépendant vis-à-vis de l'extérieur. Et il faut que ça soit un vaste programme du gouvernement. Nous avons vu, ils disent qu'ils veulent professionnaliser l'agriculture. Mais aujourd'hui, un pauvre ne peut pas cultiver. D'accord ? Pour faire d'abord même les petites cultures de courte saison, c'est difficile. Et les paysans se limitent peut-être à un hectare, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus. OK ? Donc, il faut de lourds moyens. Seul l'État dispose. Soit on dit que pendant tel nombre d'années, nous mettons les bulldozers pour le dessouchage, nous mettons les porte-chars à disposition, subventionnés. Et je vous dis, la question de l'eau, parce que, vous voyez, tous les arbres qu'on vient de planter là, bientôt la pluie va cesser. Qui va les arroser? C'est la même chose au champ, où on laisse, ça, quand la saison sèche arrive, tout ce que nous avons planté en cette période de pluie, surtout que on le fait tardivement, au lieu de le faire dès les premières pluies de mars, on attend le premier juin de Nias pour planter les arbres, alors qu'on aurait pu déjà bénéficier des eaux qui sont passées depuis mars. Ok, donc il faut revoir, par rapport au changement climatique, cette histoire de journée de l'arbre. Donc ceux qui ont planté tôt les pieds vont pouvoir, les arbres vont pouvoir bénéficier de l'eau jusqu'à la saison sèche. Et peut-être ceux qui font le champ de cacao et de café, pourquoi ça ne décolle pas? C'est parce que c'est la saison sèche qui vient brûler une bonne partie, et il faut reprendre. Et après, il y a les feux de brousse, étant donné qu'on n'a pas des fontaines ou des châteaux au niveau des champs d'irrigation pour pouvoir éteindre le feu au moment où les gens commencent à chercher la gouttière à partir du mois de janvier, là où les herbes sont secs. Donc les champs brûlent. Donc il y a tout ça là, et il y a la main d'œuvre. Aujourd'hui, il n'y a plus de main d'œuvre agricole. La même Banque mondiale qui veut nous aider à développer l'agriculture, la même Banque mondiale finance les Gozem à Lomé et dans les grandes villes. Donc on dépouille nos villages de la force du travail. Même le gouvernement a créé IFAD. On cherche des gens pour aller faire la formation. On n'arrive pas à trouver. Aujourd'hui, c'est les jeunes corps habillés qui remplissent les IFAD. Est-ce que vous voyez? Donc la main d'œuvre, on n'arrive pas à retenir. Alors que on peut créer des ouvriers agricoles comme cela se fait en Côte d'Ivoire, voyez, des ouvriers agricoles à qui on garantit un minimum de salaire pendant un certain nombre d'années, 5-10 ans. Et après, les gens vont reprendre goût à l'agriculture au lieu de mettre l'argent dans les émigrants et pour faire les accidents partout dans les villes. Donc il y a des préalables, on doit redéfinir la chose. Il ne suffit pas de faire les discours de transformation structurelle. Oui, pour une transformation structurelle, il y a des préalables à la base. Tant que la main d'œuvre agricole ne va pas suivre, les jeunes sont obligés d'aller au Nigeria et autres. Et vous voyez aujourd'hui la déception avec la filière soja. Tampa Express l'écrivait, d'accord, la filière soja sur la pente glissante du coton. Aujourd'hui, les gens ont plus de 80 000 tonnes de soja cultivées pour la saison 2022-2023 qui ne sont pas écoulées. Donc, ils ne sont pas en mesure de relancer les champs pour la saison 2023-2024. Vous voyez comment on lance la déception, c'est-à-dire que l'État se lance pour professionnaliser un secteur et aussitôt après, l'État encore ralentit le développement du secteur.
Merci beaucoup, voilà. Francisco. Et Olivier, et c'est vrai qu'il y a des engagements qui ont été pris par les pays pour la rencontre à l'ordre de Lomé. Mais au-delà des engagements, il faut mettre en œuvre tous ces engagements, ou du moins s'il faut une application pour que du moins ces propositions aussi pertinentes qu'elles soient, soient mises en œuvre pour que du moins l'agriculture dans la sous-région décolle.
Bien évidemment, bien sûr qu'il faut, je l'ai dit, donc il faut quand même qu'on ait une suite de la rencontre de Lomé. Il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup d'engagements, il y a beaucoup donc d'institutions et d'États qui ont pris part à cette rencontre et qui a fait grand bruit. Et maintenant, une chose est de faire des rencontres et l'autre est de les faire suivre des faits. Donc, que ça ne soit pas que des effets d'annonce. Moi, d'habitude, on dit qu'on n'a pas besoin, en réalité, de ces rencontres-là si on veut bien faire. Je ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. Hein. Mais quand même, est-ce que réellement, si on veut bien faire, il faut se réunir, faire des déclarations, et dépenser beaucoup d'argent et se retrouver. Et quoi que...
Mais je pense quand même qu'il faut des réflexions autour de la chose.
Bien sûr, on peut avoir des réflexions. Ça, je ne...
Oui, là,
ça,
on a besoin alors de se réunir.
Mais les multiplier, parfois, je crois qu'en Afrique, on fait trop de rencontres. Et les résultats ne suivent pas. Ça, c'est, je le dis tel que je le ressens. D'accord. Il y a beaucoup trop de rencontres, d'ateliers, de sommets, de tout ordre. Mais ça ne donne jamais on ne voit pas la suite. C'est ça qui est problématique. Mais quand vous faites le rapport, le ratio entre ce qui est dépensé pour ces rencontres et ce qui manque à l'agriculture ou aux paysans, vous posez des questions.
On aurait plutôt dépensé ce qu'on a pris pour organiser cela alors dans l'agriculture.
Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. On peut faire des rencontres, mais les multiplier à chaque fois alors qu'il n'y a pas de résultat. C'est ce que je dis que c'est trop. Et de deux, c'est que les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas besoin de grand chose pour faire évoluer donc l'agriculture. Mais est-ce que d'abord les fonds qui sont mobilisés vont réellement dans les champs? Nous avons connu des projets au Togo, beaucoup de projets qui ont drainé des milliards, des centaines de milliards, je veux dire. Mais qu'est-ce qui a changé réellement? Nous sommes toujours à l'étape de cherté du maïs, c'est-à-dire au marché, tout est cher. Mais si on va quantifier le nombre de milliards qui sont venus de la Banque mondiale, qui sont venus des bailleurs de fonds, qui sont venus même de l'État togolais, alors il faut peut-être à un moment donné s'arrêter, se demander réellement qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Si on ne fait pas ça, on va toujours mettre de l'argent et les résultats seront toujours les mêmes. Moi, j'estime que c'est une question de personnes. Ceux qui sont en charge de l'exécution de certains projets ne sont pas efficaces. D'accord?
Oui.
Donc, ceci étant dit, il faut d'abord agir sur ce levier-là. Puisque vous n'agissez pas sur le levier, vous pouvez vous rencontrer, débloquer des milliards, mais ça va se perdre en chemin. Et ça ne va pas arriver à ceux-là qui doivent faire le travail pour changer la situation de notre agriculture. Donc, c'est là qu'il faut beaucoup plus travailler. Et après, je crois que tout va aller pour de mieux.
Est-ce que vous avez aussi l'impression que, au niveau de l'exécution de ces engagements, il y a toujours quelque chose qui manque? Il y a cette volonté politique, alors de le faire, on n'arrive pas à retrouver cette volonté.
Bon, sur tous les projets, au moment de l'exécution, il y a ce qu'on appelle le taux d'exécution, si ça a été exécuté à 100%. Et généralement, les projets ne sont jamais exécutés à 100%. À l'heure du bilan, parfois on se satisfait quand on dépasse en 60-70%, mais quand on fait moins que 50% de ce qui était prévu en termes de résultats, alors on peut conclure que ça a été un échec. Donc ce que Olivier dit, ce que Francisco dit, c'est vrai, parfois on fait un certain nombre de choses, on a comme l'impression qu'on met plus de moyens dans l'organisation que sur le terrain. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut offrir quelques cahiers, on reviendra peut-être parler de ça, à des jeunes, et il va médiatiser ça avec peut-être 200, 300 000, alors qu'il a offert peut-être 100 000 francs de cahier. Vous voyez, c'est comme des gens qui disent qu'ils luttent pour les jeunes, les enfants, le sida et tout ça, qui roulent des voitures de 40, 50 millions, vivent dans des bureaux climatisés, qui pompent des budgets de milliards, alors que sur le terrain, ils ne mettent que des millions. Mais pour leur fonctionnement, ils mettent beaucoup plus. Donc ça, c'est un problème aussi vieux que le monde. Ceux qui dépensent choisissent la manière dont ils veulent dépenser leur argent. Maintenant, après ces sommets-là, on ne sait pas qui les finance. Est-ce que c'est le Togo qui les finance totalement ou les partenaires qui sont co-organisateurs financent totalement ou en partie. Donc ça, c'est un autre débat. Mais après, la vérité aussi, c'est que, Francisco le disait, bon, on ne trouve pas des gens. Il faut créer des ouvriers agricoles. Non, je ne crois pas qu'il faut créer des ouvriers agricoles. Il faut que les gens comprennent que l'agriculture, c'est une entreprise très rentable. Et la dernière fois, lors du 27 avril, le chef de l'État disait qu'il rêve de voir des milliardaires, des agriculteurs milliardaires. Il faut que ce rêve-là soit partagé. Mais après, il faut que les gens aiment la terre. Quelqu'un qui aime la ville, qui vient faire des midi, on ne va pas le ramener de force au village pour cultiver, parce qu'il n'aime pas, il a quitté le village, il n'aime pas la vie du village, il n'aime pas les champs, il n'aime rien. Mais ça serait dommage. Maintenant, peut-être qu'il faut amener les jeunes à comprendre que, aussi bien que la menuiserie, le commerce, la maçonnerie, un certain nombre de choses, l'agriculture aussi est quelque chose de rentable. Et un autre problème ici, on met en branle certains projets au lieu d'aller chercher directement les agriculteurs, ceux qui sont déjà sur le terrain. Pour le soutenir, on lance des appels à candidature. Et il y a parfois certains qui viennent juste parce qu'il y a des financements. Et ceux-là font que ces projets-là n'aboutissent pas parce qu'ils n'étaient pas dans le milieu. Ils sont venus parce qu'il y a des financements. Et il faut que les États africains en général revoient ça, qu'ils soutiennent directement les acteurs. Qu'ils aillent voir des gens, mais vous êtes agriculteur, vous utilisez tel espace. De quoi avez-vous besoin pour grandir votre production? Et on les accompagne. Et je crois qu'à l'occasion des FOPAT, ça a été peut-être ce que le chef de l'État a recherché pour avoir ce contact direct avec les agriculteurs. Mais si ça s'organise bien, on pourra dire, bon, on met de l'argent et ça va directement et effectivement aux bénéficiaires qui sont déjà des acteurs qui ont choisi ce métier et qui ne cherchent que des moyens pour grandir. Et je pense que si ça se fait comme ça, on pourrait peut-être atteindre les objectifs.
J'aimerais, nous allons
pour ce quitter, dernier point de chair, rapidement. C'est très important. Quand il y a des projets, c'est qu'on définit mal les bénéficiaires. D'accord. On définit tellement mal les bénéficiaires qu'on oublie le paysan, même qui est déjà à la tâche. Même pas seulement le paysan, même le fonctionnaire qui a un champ. Le fonctionnaire qui a un champ utilise de la main d'œuvre. S'il a accepté en tant que fonctionnaire ou en tant que cadre ou administratif quelque part, mais il a un champ, c'est qu'il a des ouvriers agricoles, des gens qu'il paye, même si c'est temporaire. Donc, si on réidentifie les bénéficiaires des projets pour voir ceux qui sont déjà dedans et non laisser lorsqu'un projet sort. Sort à l'horizon, on voit que c'est les fonctionnaires qui sont sur le programme et voilà. C'est eux maintenant qui, par personne interposée, vont faire des projets pour bénéficier des subventions. Sinon, c'est ce qui s'est passé dans les histoires de PASA et autres. Quand vous allez vous chercher tous ceux qui ont des fermes et vous prenez les noms, vous sentez que ça là, c'est fonctionnaire, c'est son frère, c'est sa femme et autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces projets financés par PASA, parce que moi j'ai visité certaines fermes il n'y a pas longtemps, surtout d'élevage, depuis que le ministère a cessé de donner les subventions, tous ces projets sont à l'eau. Les éleveurs, les bergeries construites sont devenus des je ne sais pas. Voilà.
Merci beaucoup, Francisco. Oui, nous allons quitter le sujet. Oui, et très rapidement, parce que nous allons.
Vous savez qu'au Togo, nous avons des entrepreneurs ou des inventeurs qui ont créé des tracteurs made in Togo. Et je crois qu'il y a un problème, puisque je vois les gens acheter des tracteurs ailleurs, et Bukungu l'a fait dernièrement. On parle de mécanisation, mais on n'associe ni ce compatriote à ces projets de mécanisation. Ni on ne pense au moins à investir cet argent dans la recherche locale, d'accord? Puisque nous avons un entrepreneur togolais ou un inventeur togolais qui a inventé un tracteur qui fonctionne, qui est démontré, qui a été acheté par d'autres des privés et qui les utilise et qui sont satisfaits. Mais maintenant, on va investir. Et le rapport sur la qualité-prix n'a pas, c'est-à-dire on ne peut pas démontrer. Ailleurs, c'est plus cher deux fois, trois fois. Mais il est étonnant que nos autorités, le gouvernement, font des projets de mécanisation et passent à côté de ce compatriote pour aller acheter des tracteurs à des centaines de millions ailleurs. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui explique cela, mais quand même, je me pose des questions.
C'est ça qui justifie la présence de la Banque mondiale, du FMI et autres, parce que c'est eux qui apportent l'argent, qui sont des crédits pour nous. Maintenant, ils insistent à ce que... Ils exigent que le matériel soit acheté ici. Si c'est acheté au Canada, quand je prends le cycle de vie du matériel, mais les gens font des calculs minutieux. Jusqu'à la fin, les pièces de rechange, eux, ils ont déjà récupéré même leur argent, même avant terme. Est-ce que vous voyez? Sinon, celui qui est parti prendre la banque et Bukombo ou bien qui, pour lui donner les moyens ou bien lui dire, bon, lui confier la concession en quelque sorte de fournir les tracteurs, sinon le matériel agricole au Togo, lui n'a pas vu des Togolais.
Non, je ne dis pas forcément que Goupier est un étranger, mais Bukungu peut acheter.
Nous allons quitter alors ce sujet. Nous allons nous transporter à la présidence alors de la République. On sait que hier l'exécutif togolais autour alors du chef de l'État s'est réuni en Conseil des ministres et au milieu alors de cette réunion de l'exécutif, il y a eu deux projets de décret et aussi trois communications qui ont été écoutées. Et ces projets fixent alors les modalités d'exercice alors des domaines de la santé et de l'hygiène publique, alors puis de l'éducation, de la formation professionnelle. Et au-delà, alors ce que nous avons compris, les projets définissaient plutôt les partages alors de compétences, surtout entre l'État et les communes. Napokura, c'est vrai que depuis un temps nous sommes à une décentralisation naissance, mais toujours est-il qu'aujourd'hui on a l'impression que les communes par rapport à leurs compétences n'arrivent pas à cerner trop le contour de la chose par rapport surtout à l'État.
Non, c'est tout d'abord c'est que nous-mêmes on est en train de s'embrouiller dans les tests. Avant le démarrage de la décentralisation, il y avait les tests. On n'a même pas encore commencé par mettre en place. On fait des modifications et les modifications sont pratiquement tous les mois. Hein, on sort quelque chose, si ce n'est pas un arrêté, un décret pour créer autre chose. Je dis qu'il faut qu'on arrête cela que nous avons mis à ces postes de maire et conseillers municipaux. Il faut qu'on leur donne confiance et qu'on mette les moyens à leur disposition pour faire le travail en ce qui les concerne. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, les deux bassins de rétention Léo 2000, dont on parle souvent. Mais quand les riverains se sont rendus compte qu'on ne fait rien pour eux, ils ont fait des démarches jusqu'au ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont cru que c'est la mairie qui gérait cette histoire et que la marine n'arrivait pas, mais ils sont allés au ministère. Mais en fin de compte, c'est quoi? C'est le préfet qui gère les bassins de rétention, c'est-à-dire que le préfet de
Agoué.
Est-ce que vous imaginez? Mais qu'est-ce qu'on réserve comme prérogative ou bien comme charge pour les mairies? D'abord, vous créez des structures pour les empêcher d'avoir des moyens pour exercer. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de nouveaux tests. Les anciens qui existent sont déjà bons. Il faut faire des débuts d'application sans tenir compte que la couleur de celui-ci qui est là-bas, là, ce n'est pas ma couleur. C'est à partir de ce moment que lorsqu'on voit que quelque chose ne marche pas, on peut aller à des lois pour pouvoir et rectifier. Sinon, aujourd'hui, au Togo, tout le monde sait que les mairies n'existent que par leur nom. D'accord? On fait tout pour leur enlever les moyens de subsistance et on leur demande de faire plus. Alors que les choses qu'il devait faire sont données à telle structure qui est créée, sont données à telle autre autorité, et finalement, nos mairies n'existent que de nom. Donc, c'était ce qu'on est en train de voter. Si on finit de les voter, je ne sais pas si le ministre Payadoua Boukouessi a bien lu. S'il n'a pas bien lu, ça veut dire que le lendemain, lui, il va prendre une décision, d'accord, pour faire autre chose que ce que le gouvernement a décidé de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que chacun est dans son coin et bloque ce qu'il veut et ce qu'il arrange. L'Assemblée nationale a passé son temps à voter des textes. Les textes sont votés, mais sont restés dans les tiroirs inappliqués. Donc, donnons à César ce qui est à César. Laissons chacun dans ses prérogatives et que la personne travaille bien, qu'on le juge au résultat.
Jamais, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression que les mairies, les communes que nous venons alors de créer sont vraiment dans leurs prérogatives?
Oui, elles sont dans certaines prérogatives, mais pas toutes. Je crois que le gouvernement lâche progressivement certaines de ses prérogatives au profit des mairies, parce qu'il y a longtemps que tout était contrôlé par le gouvernement. Le gouvernement a mis en place les délégations spéciales qu'il a toujours continué par contrôler, puisqu'il nommait les présidents qui en appelaient abusivement des maires, mais qui étaient comme d'autres formes de préfets qui étaient dans les communes. Et donc, à partir du moment où il y a la décentralisation, il faut lâcher certaines compétences. Et ça dépend des pays, et ça dépend donc de la forme de décentralisation dont le pays veut se doter. Donc aujourd'hui, il est clair que les maires eux-mêmes sont en apprentissage, d'où plusieurs formations qui sont données par le ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale en charge du développement des territoires, le ministre Diéba, qui fait un grand travail silencieux avec les mairies dans le cadre des plans de développement des communes, avec le soutien de la GIZ, de l'Allemagne, qui fait énormément donc pour la décentralisation dans ce pays. Et on forme les maires à la gestion. Vous savez que même depuis deux jours, la RMP, par exemple, est en train de former les maires sur la passation des marchés publics et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est des maires, pour la plupart, qui ont de la volonté, qui sont jeunes, qui ont envie de marquer leur passage, mais qui n'ont pas véritablement les moyens. Maintenant, les moyens ne viennent pas que de l'État. Quand on dit de donner les moyens aux mairies, c'est que les citoyens aussi doivent donner. Alors qu'au niveau des citoyens, il n'y a pas beaucoup de possibilités aujourd'hui que les maires prennent de l'argent. Donc, c'est le gouvernement qui donne, qui contrôle, ce qui est compréhensible. Mais quand Francisco dit qu'on empêche aux maires de travailler, je ne crois pas. Parce que quand on voit la majorité des maires, ils sont du parti Unir. Ça voudrait dire que Unir même empêche ces maires de travailler. Vous comprenez? Parce que la plupart des mairies, les mairies sont dominées par le parti au pouvoir. Mais je crois que le gouvernement traîne un peu le pas pour lâcher certaines compétences qui sont propres aux communes dans certains pays, qui dans notre pays ne le sont pas encore. Maintenant, c'est le processus, on peut l'évaluer comme on veut, mais globalement, moi je pense que les maires se battent avec le peu de moyens qu'ils ont. Pour la plupart, qu'ils soient de l'opposition, du parti au pouvoir, essaient de faire quelque chose. Maintenant, il faut leur donner les moyens. Il y a cette taxe d'habitation dont on a parlé, dont on ne parle plus depuis la Covid et depuis la guerre en Ukraine, parce que les populations ne sont pas toujours prêtes avec la vie chère et tout cela. Donc, tout ça fait que les mairies ne peuvent pas. Mais ce n'est pas propre au Togo. Je crois que la plupart dans nos pays africains, la décentralisation, à part quelques rares exceptions, ça n'a pas été des grands succès comme en Allemagne. Et je pense que c'est pour ça que les Allemands sont vraiment très proches et accompagnent pour qu'on ait ici des communes qui ressemblent un peu à ce qui se fait en Allemagne. On espère qu'on y arrivera. En tout cas, quand on voit cette génération de maires qui ne manque pas d'initiative et qui essaie, malgré la faiblesse des moyens dont ils disposent, on peut se dire que dans peut-être le prochain mandat, on va assister à des choses beaucoup plus concrètes et plus visibles sur le terrain.
Olivier, c'est vrai, j'écoutais le ministre de la Communication, le professeur Akoda Iwadan, hier, dans la conférence de presse qui suit souvent le Conseil des ministres, et il disait surtout sur ce point, par rapport au partage d'expérience, il disait que, mais en fait, quand on prend l'exemple des formations sanitaires dans notre pays, que c'est l'État qui gère et les mairies viennent en appui. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport au fait que c'est les mairies qui doivent venir en appui?
Non, je crois que le confrère Francisco l'a dit, les tests sont là. Les tests sont là, mais bon, ce ne sont pas aussi des monuments donc érigés qui ne peuvent pas être touchés. D'accord, on peut, cet aspect évoluer en fonction donc de l'expérience de terrain, en fonction des difficultés rencontrées. Donc vous savez que entre l'État et les communes, il y a des compétences.
Tout à fait.
Il y a des compétences partagées et il y a des compétences qui sont propres donc aux communes. Donc les communes pour les compétences propres à elles, donc elles ont toute la latitude d'agir, mais pour les compétences partagées, voilà, l'État intervient et la mairie aussi peut intervenir. Donc je crois que c'était la question qui a été soulevée hier en Conseil des ministres, où le Conseil des ministres a parlé donc des modalités d'exercice de ces compétences partagées. Donc comment est-ce que l'État et les mairies doivent se partager ces compétences pour qu'il n'y ait pas de problème entre ces deux entités. On parle par exemple du domaine de la santé, de l'hygiène publique, de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc l'État intervient parfois, vous savez, les hôpitaux, la plupart du temps, c'est l'État qui les construit.
Tout
d'accord. Et met à la disposition donc de la population, des communes, mais même les employés, le matériel et le fonctionnement, pratiquement, c'est l'État qui gère. Donc ce sont des choses, il faut délimiter les compétences. Et ça, on ne peut pas en redire. Ça veut dire qu'il y a eu des difficultés à quelque part dans l'exercice de ces pouvoirs, si bien qu'il faut maintenant les affiner donc, et les compétences de chacun, ou mieux les encadrer. C'est ce qui a été fait, comme on le dit, ça se fait aussi bien ailleurs qu'ici. Donc il faut quand même pouvoir aider les deux entités à bien fonctionner, en bonne entente surtout. Les mairies aujourd'hui, on est en train d'expérimenter la décentralisation. Vous le savez, il y a moins de 6 ans quand nous avons commencé la décentralisation réelle. Donc, on est encore à l'étape d'apprentissage. Nous serons amenés à retoucher beaucoup les tests, régulièrement même, pour pouvoir faire avancer cette expérience jusqu'à ce que nous puissions avoir une parfaite maîtrise de la décentralisation.
Nous sommes encore à l'étape alors d'expérience, et vous l'avez dit, et là où dans le domaine où on dirait encore que nous sommes encore à l'étape alors d'expérience, c'est par rapport surtout à l'organisation alors des régionales. L'organisation des régionales, aujourd'hui on sait que le Togo s'est lancé alors dans cette organisation, et finalement il y a même l'opération alors d'enrôlement qui se passe sur le terrain. La zone 1 a terminé et la zone 2 a repris. Maintenant, c'est vrai, hier, à la conférence de presse alors de l'ANC, l'ANC a dénoncé surtout des irrégularités qu'elle a eu à retrouver dans le processus déjà dans la zone 1 et aussi dans les zones suivantes. Napokura, quand on prend même d'ailleurs ces irrégularités, et finalement, c'est des choses quand même que beaucoup de partis ont en quelque sorte dénoncé.
Oui, mais c'est ce qu'ils ont dit. On est toujours dans le mauvais bon apprentissage, si vous voyez. Et il faut toujours apprendre, mais ce n'est pas comme ça. Nos expériences sont fâcheuses. D'abord, vous voyez le choix des maires et des mairies et autres. Vous voyez dans les conditions même dans lesquelles les gens sont partis. On a tout fait pour empêcher des gens qui peuvent bien travailler d'aller. Donc, on ne peut que dépenser pour des renforcements de capacités qui n'auront pas lieu. Regardez, et la CENI. Quelle expérience la CENI n'a pas eue ici, avec autant de temps d'organisation, de recensement, qu'on nous dise aujourd'hui, même après le 5e recensement, que nous avons encore des manquements aussi criards sur le terrain. Nous l'avons et effleuré dans notre article sur le découpage dans Tampa Express, même jusqu'à proposer mode de scrutin. Mais ce n'est pas normal. Moi, j'étais dans la zone 2, Moi, je me suis fait recenser à Palimé, c'était le dimanche dernier. Je suis arrivé, il n'y avait pas de grande foule. Mais imaginez que, parce que les médias n'ont pas accompagné le processus, les gens ne savaient pas qu'on a prolongé les dates. Est-ce que vous voyez? Mais imaginez qu'à Palimé, zone 2, pendant que nous avons décrié ce qui s'est passé, les manquements de la zone, dans la zone 2, on constate encore que par moment, il y a le matériel, les cartes qui manquent. Donc, il faut appeler Lomé, que Lomé achemine les fournitures. C'est inadmissible.
Mais est-ce que ça veut dire que là, la CENI n'a pas appris alors de cette expérience alors de la zone 1?
Malheureusement, oui. La CENI n'a pas appris des leçons où c'est fait intentionnellement. Nous allons suivre jusqu'à la zone 3 pour voir comment ça va se dérouler là-bas. Est-ce que c'est intentionnellement qu'on a ralenti l'enroulement au niveau de la zone 1 et de la zone 2? Parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle, qu'on dise qu'après autant de processus électoraux au Togo, qu'on dise encore qu'on fait des révisions avec ces manquements. Les machines, oui, c'est que les machines sont vieillots, donc ça ralentit. D'accord, même pour la reconnaissance faciale, pour la prise de photos, pour moi-même, il a fallu que quelqu'un vienne appuyer son index pour que ça me laisse passer, puisque la machine n'arrivait même pas, la caméra n'arrivait pas à reconnaître mon visage. Ce qui est dommage, c'est que le matériel me met vite. Donc, il fait la lenteur. Certains agents sont lents, d'accord. Nous, on était deux, j'avais ma carte d'identité. Le doyen qui m'a enregistré, c'est en quelques secondes. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui avait sa carte d'électeur et sa carte d'identité, le jeune qui l'a enrôlé ne faisait que poser des questions sur chaque étape. Moi, c'est le numéro de téléphone que le doyen a confirmé chez moi. Si ces numéros sont toujours valables. Quand il m'a donné la fiche était correcte, il a tout bien rempli. À partir de ma carte et d'identité. Donc vous voyez, donc c'est ces choses là qui sont sur le terrain. Et c'est vraiment, c'est pas normal que la CENI continue, surtout le manque de fourniture, puisqu'on sait combien de personnes environ on ira recenser dans chaque zone. Donc nous allons encore suivre dans la zone 3 pour voir est-ce que c'est sciemment, est-ce qu'il y a discrimination, et on le relève là.
Alors, Germain, c'est vrai que des dysfonctionnements ont été observés déjà dans la zone 1, et normalement, ces dysfonctionnements devaient être corrigés pour l'étape alors de la zone 2 et 3.
Oui, en principe, ça devait être corrigé, mais on sait que les opérateurs qui s'occupent de la saisie, hein, donc des données, ne sont pas si habiles que ça. Quoi qu'ils ont été recrutés sur la base de leur qualification avec des connaissances avérées en termes d'informatique et de travaux de secrétariat, mais je crois que sur le terrain, ce n'est pas ça. On a vu des gens qui ne se retrouvaient pas totalement avec l'usage des machines dans la première zone. Mais vers la fin, il faut aussi reconnaître que ça s'est amélioré et qu'on pensait que cette tendance allait se poursuivre donc vers une maîtrise totale du processus. Toujours est-il que l'opposition a eu à dénoncer d'abord le MP, dynamique
pour la majorité du peuple.
Pour la majorité,
voilà, du peuple. DMP.
Voilà, avant l'ANC aussi avait eu à dénoncer un certain nombre de choses, mais après ça aussi, il faut se dire que c'est propre dans tous les pays. Vous verrez l'opposition dénoncer les inscriptions de mineurs, d'étrangers, des ralentissements pour décourager des électeurs qui parfois sont avérés, mais parfois totalement faux, pour justifier éventuellement après les contestations. Mais objectivement, on reconnaît quand même que les opérateurs de cette année n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Est-ce qu'il ne faut pas finalement travailler avec des anciens, chercher à former des cellules, un personnel dont le rôle essentiel est de délivrer ces cartes-là, comme on le fait dans les commissariats de police ou au service passeport, mais des agents électoraux qu'on a recrutés qui sont sur toutes les élections et qui font un travail technique.
Tout à fait.
D'où encore une fois la question sur la CENI technique, et peut-être si cette CENI était mise en place, elle pourrait mettre en place une série de professionnels et un groupe de professionnels qui iraient dans tous les coins et établir les cartes rapidement. L'autre aussi doléance, c'est que on avance un peu dans l'identité numérique des Togolais, pour qu'on n'ait plus forcément à aller faire ces queues-là dans les écoles, et que les gens restent chez eux, et que par un message, on vous dise, ben, vous êtes dans tel bureau de vote, voilà, vous allez voter le jour J. Je pense que le Togo aujourd'hui a beaucoup investi dans le numérique. On pourrait être pionnier dans ce domaine-là en Afrique, vivement qu'on évolue aussi vers là.
Olivier, est-ce qu'on ne va pas craindre le fait que, alors, pour ces irrégularités que l'opposition est en train de dénoncer même d'ailleurs, est-ce qu'on ne va pas craindre que l'objectif ne sera pas atteint au niveau de la CENI?
Je crois que ce sont des dénonciations auxquelles nous avons été habitués. Ce n'est pas pour la première fois qu'on dénonce. D'accord. À tort ou à raison, moi je ne saurais le dire, d'accord, étant donné que la CENI est en train de faire un travail qui est un travail réalisé par des humains, on ne peut pas avoir certification à 100%. Moi, mais ici, si j'en suis victime, puisque je n'ai pas pu avoir ma carte d'électeur, malgré le fait que je sois déplacé, mais quand même, il faut améliorer, il faut accompagner, il faut améliorer. Je crois que l'opposition doit être présente pour voir et encadrer ou du moins aider à améliorer, d'accord. Les dénonciations c'est bien, mais être présente et aider c'est encore mieux, puisque à la fin ce sont des formations politiques qui vont être candidates à cette élection. Donc ensemble il faut qu'on construise l'idéal pour nous. Nous avions toujours relevé des manquements et nous demandons à ce que la CENI fasse l'effort pour satisfaire tous les Togolais. J'ai entendu un chef de parti politique dire qu'il faut pas laisser, il faut laisser aucun Togolais donc de côté. Tous ceux qui sont en âge d'avoir les cartes d'électeurs et qui ont sont demandeurs, il faut faire en sorte que cela est cela. Il faut éviter que les étrangers viennent s'enrôler. Il faut éviter donc des irrégularités. Et c'est ensemble qu'on peut le faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'irrégularité, mais il faut quand même que nous puissions aider la CENI à l'améliorer.
Il faut qu'on aide la CENI à l'améliorer. Alors, les auditeurs nous ont écoutés et, pendant quelques temps. Nous allons aussi les écouter sur des questions et autres par rapport surtout au sujet débattu au Club de la Presse d'aujourd'hui. Mais nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs d'abord.
Diamant Stout Porter, diamant noir, bière noire sans sucre ajouté, une première au Togo. Diamant Stout Porter, facilement identifiable dans sa robe ébène, sa mousse beige crémeuse et ses arômes torréfiés. Un pur régal pour les connaisseurs. Diamant Stout Porter, 7% d'alcool dans une bouteille de format 33 centilitres à 600 francs CFA. Diamant Stout Porter, c'est véridique, cette bière est unique, son goût est riche et intense. Diamant Stout Porter, diamant noir. Jama. Avec Jama, on est ensemble.
Yeah. Chérie, tout à l'heure là, je viens de t'appeler, puis le coucou est déjà prêt.
Mais toi là, tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou, foufou mix qui tourne.
Sur votre demande, la société Foufou Mix SA prolonge pour vous la Tabaski promo du 26 au 9 juin 2023 avec une réduction de 50 000 francs sur tout achat de Foufou Mix et livraison garantie au plus tard le mois de juillet 2023. Infoline 90 78 72 30 90 78 72 30 97 55 28 28 97 55 28 28. Avec Foufou Mix, obtenez votre foufou facilement, proprement et en un temps record.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Retour dans cette émission Club de la Presse d'aujourd'hui, vendredi bien évidemment, et je le disais avant qu'on aille à la pause que vous avez maintenant la parole alors de nous appeler sur le 22 21 33 114 ou le 91 36 63 75 alors pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous avons un premier auditeur. Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui, allô.
Oui, allô, bonjour.
C'est Pélé.
Oui, Pélé.
Ok.
Allez-y. Merci.
Bon, le sujet de la vie, c'est un déplacement. C'est très préoccupant pour le peuple de l'Est. Lorsque le peuple de l'Est est le plus de sa carte de l'Est, il faut que le gouvernement et la police spécialement de remettre la carte sur le peuple de l'Est. Parce que c'est une des plus grandes. Bon, nous ne pouvons pas savoir le pays qui est un gouvernement de l'Est qui a dit qu'elle est indépendante. À tant fois, je dis encore que tout ce qui sera fait, qui a le dysfonctionnement, même si je ne sais pas de parler du dysfonctionnement, est-ce que ça peut être en fait dans la zone 2 et je ne sais pas ce qui va se passer en fait dans la zone 3. Donc, lorsqu'on le fasse, on ne dit que une semi indépendante, et peut-être qu'il faut que la semi-soit technique. Si il y a des technicités, je ne pense pas que tout ce dysfonctionnement va se faire. Donc, nous pouvons en place spécialement, je vais démontrer qu'il y a ce qui se passe. Entendre même le dictateur. Qui a installé le dictateur? Qui a installé la série? Qui a fait? Est-ce que la série a eu un chronogramme? Tout ça, là, je pense que le gouvernement doit faire le service. La série même doit faire le service pour qu'il y ait la paix dans le pays. La paix, ça proviendra de ceux qui organisent une élection. Une élection, le peuple de l'État a besoin d'une élection transparente.
Merci beaucoup, Pélé. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler pour se prononcer sur des sujets dont nous avons débattu ici au Club de la Presse. Un auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Allô.
Oui, ça va, Papa Sibiti?
Non, c'est l'évangéliste
Senghor. Ah, c'est l'évangéliste
Senghor,
justement.
Voilà. Vous voulez nous avons parlé de la
d'accord avec le discours du chef de l'État.
Oui, Senghor. Allô, Senghor.
Allô, allô.
Oui, voilà.
Allô, je dis.
Oui.
Je ne suis pas d'accord avec le discours du chef de l'État. Ouais, pourquoi? Il est pas que vraiment que le chef de l'État puisse être des révolutionnaires. Ou est-ce qu'il peut faire pour aider leur nation. Vous comprenez? Un de vos confrères a dit tout à l'heure qu'on dépense 16 milliards pour faire venir l'engrais chimique. Moi, je vais dire ici qu'on dépense 16 milliards pour amener la mort à des populations. Bon, écoutez, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Il n'y a pas l'engrais chimique. C'est ce que je veux savoir. Alors que nous avons notre contact. Le chef de l'État nous permet de pouvoir quand même boire. Les techniciens, les ingénieurs, qui sont quand même avec notre contact, et d'une manière, la préparer des années d'hier, pour que les gens puissent chercher. Mais aujourd'hui, le chef d'État, qui est là, il est content de sauter les bonnes dans le bois et dans le fil. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est là qu'il n'y a pas d'engrais, c'est de l'eau. Moi, chez mon pays, Cavier, on appelle les guignols qu'on appelle Coderon. Aujourd'hui, on met de l'engrais avec Coderon. Vous voyez, on ne peut pas. Aujourd'hui, dans deux semaines, les gens vont manger. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est pour déposer mon micro. Quelqu'un a donné la cité d'Akoni Boupon. Mais pourquoi aussi ne pas citer le Dieu, comment on appelle, la Bible là? Et Nicolas Lanson. Moi, Nicolas Lanson, il y a le gouvernement de l'air. Aujourd'hui, ils sont en train de faire certaines choses. Mais c'est auprès de ce monsieur qu'ils ont vu. C'est un bon monsieur. Où on pouvait quand même le nommer ministre d'Agriculture, il peut faire des bonnes choses. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. 22 21 33 114 91 36 63 75. Un autre auditeur en ligne. 22 21 33 114. 22 21 33 114. Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
C'est Camille.
Camille, allez-y.
Ça peine, moi, je vous reçois. Allô.
Allô. Oui, nous vous écoutons. Allez-y.
Ok. Deux sujets m'interpellent. Le premier, c'est la question des recensements. Je veux interpeller les associations qui sont chaque temps dans la promotion de la paix, dans le vivre ensemble, non à la violence, touche pas à ma constitution. Dans l'ordre où ils se trouvent. Interpeller le président de la CIMI. Parce que venir de la violence, il faudrait qu'à chaque fois, on sait la source. On ne va pas se bagarrer pour une question de carte d'électeur dans la zone numéro 1. Le gouvernement, en conseil des ministres, a reconnu publiquement qu'il y a dysfonctionnement. La conséquence d'un dysfonctionnement, c'est que quelqu'un parmi ceux qui sont âgés de 18 ans n'ont pas eu leur carte. Il faut prendre les dispositions pour leur donner un point bas. On ne va pas être là encore à se bagarrer, à faire des bagarres, des marches, des démonstrations de force avant que les gens n'aient leur carte d'électeur. C'est un droit. Le second sujet, c'est par rapport à l'agriculture. Certains de vos camarades l'ont dit. Sincère avec le gouvernement, on en a marre des regroupements. On en a marre de ces sommets qui se font de part et d'autre. Le sommet, on a cru ici, c'est le sommet maritime, là, économie bleue. À ce jour, on ne voit pas les fruits.
Sécurité maritime.
Sécurité maritime, merci. Le sommet, on en a tellement. Pour leur illustrer ce dont nous parlons, la dernière fois, lui-même, il a été au Nigeria pour inaugurer la centrale de production des produits pétroliers. Combien de sommets on a fait avant qu'on ait ça? C'est de ça que nous parlons. On en a marre. Et ce n'est pas simplement que lorsque ces invités viennent dans notre pays, nous on n'a plus besoin de citer. Merci.
Merci beaucoup, Komi. 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui,
oui, le nom s'il vous plaît.
Oui, c'est Sylvain.
Sylvain, voilà, allez-y.
D'accord. Est-ce que pour ceux qui sortent d'engrais, il faut un sommet? Moi, je ne sais pas. C'est des actes qu'il faut poser tout de suite et maintenant, sans hésitation. Il y a eu trop de sommets. Pour satisfaire nos paysans, il faut encore un sommet pour l'engrais. C'est déplorable, les autres viennent de le dire. Et pour ces histoires de recensement, au Togo, on a l'impression que quand on veut faire quelque chose, on débourse une importante somme, on dit on fait ça à la peu près. Pourquoi ça? Déjà, il y a des partis qui ont crié déjà aux voleurs, parce que le recensement, franchement, c'est à la hâte, et puis c'est pas ce qu'on veut. On débrouche l'argent, on fait quelque chose à la préfète. C'est pas logique, au Togo, c'est toujours comme ça.
Merci beaucoup, Sylvain. Le message est passé. 22 21 33 114 91 36 63 75 22 21 33 114 91 33 63 75, bien évidemment, c'est bon. Sur ces numéros. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Salut, Patrick.
Patrick,
je voulais demander à mon frère Francis Napokoura, qu'est-ce que les sommets nous apportent au Togo? Les sommets nous apportent quoi aujourd'hui? Deuxième volet, vous ne voyez pas que ça vous même contribuer. Ah, c'est que si on veut faire les choses comme ça, les mots de vous, les gouvernants ne vous invitent pas. À chaque fois, on ne vous invite pas, mais vous parlez de ça. Vous mettez les choses à la ligne de vos journaux. Et les gens, ils ne comptent pas. Quand vous avez fait quelque chose, ils ne vous ont pas appelé. Vous pouvez commenter ça. Vous ne voyez pas que vous-même vous continuez, parce que on ne vous répond pas. Mais vous, les journalistes.
Merci beaucoup, Patrick. 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous allons recevoir le dernier auditeur. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô,
bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oh, ça va, bonjour à notre invité.
Oui,
moi pour vous.
Oui, s'il vous plaît, le nom c'est
il me semble que le gouvernement reconnaît que la fortune n'a pas bien fonctionné. Donc, et le chef de l'institution qui crée que le CENI, s'il est indépendant, il n'a qu'à retourner en arrière pour régulariser tout. Donc, nous soutenons tout ce pays. Vous voyez là le texte de deux jours maintenant. nous ne voulons pas ça au Togo. Hein? Cette autorité nous propose la grève avec Wallis. Et si vous traversez la frontière avec la métier, maintenant, de toutes les situations, des personnes. Mais tu ne peux pas traverser la frontière à payer. Et qui peut nous sauver dans tout ce contrat-là? Et nous fait, si tu vas à Paris maintenant, tu perds le péage, après arriver, au cours de tout ça, tu vas arriver plus de 4 km. Les parties sont garées, gâtées, tu vas. Et qu'est-ce que le demande à ouvrir pour nous, qui sommes les palimènes, on va aller, on va aller, on va faire le péage, la route de l'Afrique, et personne ne dit rien, et pas avant ce qu'est dans ce pays. Qui peut défendre les Congolais? Merci et bonne émission.
Merci, bonne journée à toi. Alors, je pense que c'est le dernier auditeur que nous avons reçu pour le compte lors des manifestations téléphoniques dans cette émission. Alors, nous revenons ici au plateau. Francisco, c'est vrai, vous avez écouté les compatriotes, vous avez écouté des concitoyens togolais qui ont réagi sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse. Finalement, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit?
Non, mais c'est que les auditeurs sont très attentifs, ils sont des personnes avisées. Il y a un même qui l'a dit, mais on ne nous invite pas à des sommets pour qu'on passe du temps à en parler. Si les gens ne vous considèrent pas, je crois qu'on n'a pas besoin également d'en parler.
On a aussi le droit d'informer.
Mais l'information, on l'a apportée. C'est le côté qui nous a surtout intéressé. C'est-à-dire que l'argent qu'on gaspille dans des sommets, quelqu'un a relevé pour le sommet maritime, que qu'est-ce que ça a apporté de significatif. Même les gens n'ont pas encore ratifié les tests jusqu'à ce jour. Et c'est vrai, alors que nous avons dépensé de l'argent. Et pour le faire, nous avions donné des pistes, hein, au lieu de prendre l'argent, organiser des sommets, ce qu'on peut faire avec cet argent. Il y a un même qui est parti pour demander pourquoi, que j'ai cité le professeur Kakonu Bukbo, sans avoir cité Nicolas Lawson. Oui, c'est la même école. Nicolas Lawson et Kakonu Bukbo au moins a été testé, mais après il ne répond pas au système, on l'a injecté. Et je crois que Nicolas Lawson serait pire. Donc, il n'a pas tort, parce que quand vous prenez les programmes de Nicolas Lawson, il était le premier à parler d'autoroute. Non, même d'autoroute de Lomé Saint-Cassé. À l'époque, on l'avait vu comme un fou. Mais après, les gens l'ont répété dans leur programme. Quand nous prenons l'agriculture, comment financer à partir des chefs de village l'agriculture au niveau de nos contrées, Nicolas Lawson fait partie des gens qui ont souvent abordé ce sujet. Mais ce qu'il m'a laissé sur ma soif, la personne, sinon la personnalité de Nicolas Lawson, quoique pertinente, mais il aurait pu, depuis son existence, prendre son bic, une petite signature, un projet pour accompagner des jeunes d'une localité du Togo. Nicolas Lawson est de Lomé à Saint-Cassé. Il est natif de Lomé à Saint-Cassé. Accompagner un groupe de personnes, de jeunes, un village, et même en demandant des financements, je sais que les institutions internationales vont lui accorder ce financement pour prouver aux Togolais que à partir de mes idées, voilà ce que j'ai pu générer. Et voilà, on peut multiplier ces exemples.
Francisco, merci beaucoup. Germain, votre réaction?
Oui, non, je pense qu'on ne peut pas interdire aux journalistes de parler d'un si grand événement qui s'est passé ici. On a dit que c'était une bonne chose, mais on a également dit ce qu'on peut faire pour améliorer. On a pris la défense aussi du monde agricole, donc c'est aussi l'occasion pour nous de revenir appeler les besoins et les attentes du monde agricole. On ne peut pas nous reprocher de l'avoir fait. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut que l'organisation aussi fasse l'effort d'associer véritablement la presse à ce genre de rencontres. C'est vrai que quand on ne vous invite pas, de quoi vous mêler en réalité. Mais notre travail, c'est l'information. Et s'il y a un accident quelque part, c'est pas parce qu'on nous invite qu'on va aller couvrir. On est obligé d'aller couvrir, et donc il faut qu'ils comprennent cela. Après, je crois qu'on ne fait pas tout à travers les sommets. Le Togo fait beaucoup de choses sans passer par des sommets. Mais ce genre de sommet est important pour des solutions collectives, en fait, je pense. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. On n'a pas fait ce sommet-là pour trouver des engrais aux producteurs togolais. Mais la solution peut aider à augmenter la quantité d'engrais, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, par exemple, ce sommet, c'est de doubler l'accessibilité des engrais au niveau des producteurs et de tripler la production agricole. Donc, c'est quand même des objectifs assez chiffrés et collectifs pour régler un problème de taille. Parce que si demain, les gens au Niger et ailleurs n'arrivent pas à manger, le Togo va envoyer du maïs là-bas. Mais si demain, ils arrivent à produire, on parle des tomates et des oignons ailleurs qu'on produit, et nous aussi on en aura. Donc, c'est des solutions collectives et on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de ça. Après, on n'a pas une idée réelle du coût de ces sommets-là. Est-ce que ces sommets ne sont pas rentables parce qu'ils coûtent et que le montant de l'organisation aurait pu régler le problème? Mais le monde est ainsi fait. Il y a l'ONU qui se réunit tous les ans à New York. C'est de gros frais engagés là-bas, mais le monde ne s'est pas porté beaucoup mieux parce que les dirigeants se réunissent à New York.
Merci beaucoup, Germain. Olivier, rapidement.
Non, je crois que Germain a tout dit. Tes sommets, oui, mais trop de sommets tuent les sommets. D'accord. Et nous voulons qu'après ce sommet, qu'on puisse nous dire que voilà ce que nous avons pu réaliser, les investissements que nous avons mobilisés. Et voilà, donc c'était nécessaire de le faire pour pouvoir mobiliser les bailleurs, etc., qui viennent de mettre à disposition des moyens pour le développement de l'agriculture. Donc, attendons de voir. Nous voulons que l'agriculture sorte de son ornière. Et puis, nous voulons aussi que l'Afrique parvienne à son autosuffisance alimentaire et que à chaque fois, en tout cas, ce qui est dit par les Occidentaux pour expliquer leurs certaines décisions, c'est qu'ils font ça pour que l'Afrique ne meure pas de faim. Et alors que nous aussi, nous avons une fierté, même si nous avons faim. Donc, il faut quand même sortir de cette...
Nous avons une fierté, même si nous avons faim. Alors, donc, qu'attend des fins d'émission? Francisco, qu'attend des fins d'émission? Rapidement, s'il vous plaît.
Je viens d'avoir un message, puisque au départ, je parlais de l'engrais qui est distribué sur le territoire national par le ministère de l'Agriculture dans les magasins de Kaja. Et donc, il y a une pratique différenciée en travers des régions, et spécifiquement c'était la région de la Kara dont je parlais. Donc il y a un communiqué du responsable de Kaja qui dit que les engrais dans les magasins et ne doivent pas subir le face-in, le face-out, que l'acheteur qui arrive, le paysan qui arrive, il suffit qu'il soit un agriculteur inscrit, on lui sert l'engrais de son choix. C'est pas ce qui est pratiqué dans la région de la Kara, comme je l'avais dit. Mais on m'a dit qu'il y a un communiqué, une information qui passe, qui demande à ce que tous les responsables de magasins servent aux paysans ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont demandé.
Voilà, rapidement, votre carton de fin d'émission.
Donc, peut-être c'est, disons, toutes mes condoléances à la famille Nessao Napo et Irénée, le président du parti écologiste qui est décédé, sera inhumé à Bassa demain. Que nos pensées accompagnent tout le monde et que les gens aillent revenir en paix.
Germain?
Alors nous, notre carton vert, c'est pas par rapport à l'agriculture, c'est par rapport à tous ces acteurs-là qui sont solidaires, qui aident les autres qui sont en difficulté, qui font des dons. J'en parlais un peu, j'ai fait un parallèle un peu en parlant. Pour leur dire que nous sommes porteurs d'un projet aujourd'hui qui a mis en place une web TV qui a été inaugurée cette semaine et qui s'engage à offrir une couverture médiatique gratuite à toutes les actions humanitaires.
Merci beaucoup pour la publicité. Alors, Olivier, rapidement, carton. Carton.
Sa web TV.
On va le regarder.
Un carton vert à notre confrère Logumi Sabjule qui a fabriqué ce tracteur de Made in Togo. Et nous invitons les autorités au moins à l'impliquer dans les politiques donc de mécanisation de l'agriculture pour aussi créer des champions togolais donc dans certains domaines, surtout de la mécanisation de l'agriculture.
Nous allons clôturer cette émission sur une voix douce de Hortense Nayo. Hortense, nous terminons l'émission.
Non diamant, me sauve, dans les bois, de Boubouéno, dans les Benelo. Non diamant, me sauve, dans les bois, de Boubouéno, dans les Benelo.
Nebe mene nyua, anyigmandi afona o. Nedo di kunea, begble avadi olo. We nebe mene nyua de, anyigmandi adedina o. Nedo veve sese nea, begble avadi o. Ye na ye. On se retrouve à l'hôtel 2 février ce dimanche dans la salle Fazao.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Hortense. Merci, Francisco, d'avoir participé à cette émission. Merci à Germain Pouli d'avoir participé également à cette émission. Olivier Adja, merci à toi. Merci à Thomas Dativi qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci également à Jérôme Dakoutia qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, on se retrouve la prochaine fois.
Elisabeth Nayou, ma maman à moi, merci beaucoup.
Dans de telles situations, maman, y'a pas à se décourager, il peut pas t'abandonner. Dans les problèmes, l'adversité, il t'a donné le pouvoir de déclarer sa parole pour ta victoire.
Yeah.